de Grangeret, bonjour, bienvenue dans notre petit studio à Digne-les-Bains, notre studio Fréquence Mistral. Vous êtes double championne du monde de vol à voile, et alors je suis ravie de vous recevoir. On va venir un peu à votre parcours, puisque avant d'être championne du monde, évidemment, il a fallu commencer, et vous nous expliquerez d'où vous est venue cette véritable passion.
Oui, bah d'abord, merci à vous de me recevoir, parce que c'est vrai que c'est un sport qui, malheureusement, n'a pas beaucoup de couverture médiatique locale, nationale, régionale. Donc, un grand merci de me recevoir. Effectivement, donc depuis cette année, je suis double championne du monde en vol à voile, en planeur, hein, le terme plus commun. Donc, pour répondre à votre première question, comment m'est venue cette passion, c'est une passion qui est d'abord familiale. Moi, je fais partie d'une famille de vélivoles. Ce qu'on appelle vélivoles, ce sont les pilotes de planeurs. J'ai traîné sur les terrains de planeurs, d'aviation, alors que je ne savais pas encore marcher. Et donc, il faut savoir que je suis originaire d'Angers, donc entre Nantes et Tours, dans le nord-ouest de la France. Et que le sud-est, et plus particulièrement Château-Arnoux-Saint-Auban, c'est la Mecque du vol à voile en France, en Europe et dans le monde. Donc c'est tout naturellement que je suis venue habiter, vivre ici depuis 2010.
Donc vous avez commencé assez tôt.
Oui, ouais, j'ai commencé. Moi, j'ai fait mon premier vol en planeur, je pense vers 8 ans. Et on peut commencer, désormais, on peut commencer le planeur vers 13-14 ans. Pour être lâchée à 14 ans. Donc moi, j'ai été lâchée à 15 ans. Donc être lâchée, c'est voler tout seul. Faire son premier tour planeur tout seul.
C'est très, très jeune.
Mmh. Oui, par rapport au permis de conduire qui est 18 ans. Là, on part dans les airs à 14-15 ans. Et bah, c'est un moment qui est assez... En plus, dans la vie d'un adolescent ou d'une adolescente, c'est quand même assez émouvant de partir seul. En général, c'est par condition de vent faible. En général, en fin de journée, au coucher du soleil, c'est assez magique. Et moi, je me rappelle, hein, c'était le 14 mai 2000. J'oublierai jamais cette date-là. Et puis après, on évolue. Donc, il faut à peu près entre 20 et 30 heures pour être lâché. Et après, commence vraiment, je dirais, l'apprentissage du vol à voile, hein, de la navigation. C'est un peu comme la voile. Piloter un bateau, c'est relativement simple. Après, naviguer dans les meilleurs courants et choisir ses meilleures trajectoires, ça, c'est beaucoup plus compliqué à acquérir.
On a l'impression qu'il faut quand même apprendre beaucoup de techniques, de théories, les vents, tout
ouais.
Ça, ça a l'air assez complexe.
C'est pas complexe. Enfin, disons que quand c'est une passion, rien n'est complexe, en fait. C'est vrai qu'au début, il y a beaucoup d'informations à acquérir, hein, comme dans toute nouvelle activité. Après, plus on passe de temps en vol, en l'air, plus on s'acclimate, entre guillemets, à ce milieu-là, qui n'est pas le nôtre, hein, on n'est pas des oiseaux, mais disons qu'on... Moi, je pense avoir une expérience qui augmente, hein, tout le temps. Moi, j'apprends tous les jours. Hein. Chaque fois que je vole, j'en apprends. Mais disons que j'ai acquis une certaine lecture du ciel, une lecture du sol aussi, puisqu'ici, on vole en montagne. Donc, il faut aussi bien lire les informations qui sont écrites dans le ciel, par les nuages, par les oiseaux, des fois, qui nous donnent des informations, mais aussi les informations du sol. Donc, les montagnes, comment sont-elles orientées par rapport au vent? Et en plus, ça change tous les jours. Il n'y a pas une carte des vents typiques, type du coin. Quoi. Ça change tous les jours. Donc, il faut observer en permanence et ça change en fonction de l'endroit où on se trouve.
C'est un sport ou un art ou les deux?
Ah, ça dépend. Il y a plusieurs types de pilotes. Disons qu'il y a les pilotes très mathématiciens, pragmatiques, qui font des calculs, qui sans arrêt... Qui peaufinent au maximum leur calculateur. Parce qu'on vole avec quand même quelques instruments. Hein. On vole avec des GPS, des calculateurs. On ne vole plus que à la carte et au compas. Hein. Et puis, il y a des gens, je pense, dont je fais un peu plus partie, qui sont plus dans la sensation, c'est-à-dire qu'on arrive à ressentir un peu la masse d'air, à ressentir les choses. Et ça, c'est vrai que ça peut donner quand même une longueur d'avance sur les gens qui n'auraient pas cette sensation-là. Mais avec le temps et avec les heures de vol, n'importe quel pilote commence à avoir cette capacité à ressentir véritablement la masse d'air dans laquelle il se trouve, en fait.
Quelles sont les conditions idéales pour apprendre ou pour...
n'y a pas de schéma type. Moi, je viens d'un milieu de plaine. J'ai appris vraiment dans le plat pays. Donc, Angers, c'est vraiment plat, c'est la plaine. Donc là, en plaine, en fait, il nous faut du beau temps, pas trop de vent. Et puis des cumulus, hein, comme on voit ici souvent. En montagne, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de voler par, enfin, tous les jours, quasiment. Enfin, en plus, dans le sud-est, il fait beau tous les jours. Ici, dès qu'il y a du vent, dès que la masse d'air bouge, c'est bon. Et pour apprendre à voler, même si ça ne bouge pas, c'est très bien, si vous voulez. C'est-à-dire que les premières leçons, c'est vraiment de la maniabilité, c'est manier le planeur en trois dimensions, c'est apprendre les prises de terrain, le décollage, l'atterrissage, faire une belle vente arrière. Enfin, c'est vraiment du pilotage pur. Après, pour naviguer, pour voyager, il nous faut du soleil, première énergie, il nous faut du vent. Et tout, on exploite tout, en fait. Et dans cette région-là, typique hein, des Alpes du Sud, tout est bon à prendre.
Est-ce qu'il faut passer des brevets
Il y a un brevet. Alors vraiment, ça commence à remonter. Alors peut-être que je vais dire des bêtises. En fait, on commence par passer, apprendre à voler. Donc on est lâché. Ensuite, on passe le théorique planeur, qui est une sorte de code de la route.
Ça se fait après.
Après ou en même temps. Ouais. Après ou en même temps. Et après, on est breveté. Donc une fois qu'on a le théorique planeur, on passe un examen avec un instructeur. Qui valide ou pas notre brevet de pilote. Et pour avoir le brevet, si mes souvenirs sont bons, il faut faire une heure de vol, un gain de 1000 mètres. Enfin, il y a des petites épreuves à passer avant, en solo. Donc, et après, bon, il y a des badges, ce qu'on appelle, qui sont validés par la Fédération Aéronautique Internationale, qui valide un circuit de 300 km à but fixé, un circuit de 300 km en libre, un circuit 750 km, un gain de 5000 mètres, 3000 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'on valide le fait qu'on a été largué par l'avion remorqueur ou par le treuil. Par exemple, à Saint-Auban, on va se larguer à 900 ou 1000 mètres et on va atteindre une altitude supérieure à 4000 ou 5000 mètres pour valider ces badges-là. Et ça, ces conditions-là, où on arrive à faire des gains d'altitude assez importants, c'est en général avec des conditions de Mistral.
Comment on en vient à se présenter pour les championnats du monde?
Alors on choisit pas forcément, c'est pas moi qui.
Est-ce qu'on est poussé par?
Oui, disons que moi j'ai eu la chance hein, parce que j'ai souvent la question comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Comment tu as fait pour avoir 2 médailles d'or? Honnêtement, je ne pense pas que je l'ai un jour rêvé, si, je l'ai toujours rêvé en fait, mais j'ai eu de la chance de faire des rencontres déterminantes, que ce soit du début de ma formation jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des gens qui m'ont entouré, qui m'ont mis au meilleur niveau de ce que je pouvais faire, disons. Je pense que c'est comme dans toute activité, on ignore souvent soi-même ce qu'on est capable de faire. Si on n'a pas quelqu'un qui nous pousse, qui nous entraîne, qui nous pousse dans nos retranchements, on n'y va pas. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai aussi bien au début de ma formation qu'actuellement, avec les coachs de l'équipe de France, avec les instructeurs aussi bien de Vinon-sur-Verdon que de Saint-Auban, je fais des vols où, voilà, c'est super, c'est fabuleux, mais on y va, quoi. C'est pas juste de la balade et un voyage photo. Vraiment, c'est de l'entraînement et c'est, à chaque fois, c'est une expérience nouvelle qui enrichit. En fait, mon capital a volé vite et bien. Quoi.
Est-ce que ça demande un entraînement physique important?
Disons qu'il vaut mieux être en forme. Là, je l'ai vu pour le dernier championnat du monde que j'ai fait. Donc, c'était en République tchèque. Donc, c'était le championnat du monde féminin. Moi, je m'étais pas mal entraînée, notamment avec le club alpin de Digne. Je fais pas mal d'escalade, j'essaye de faire du ski de rando, de la rando.
Ah oui, ce n'est pas unique, le sport unique, la passion.
Non, disons que le vol à voile ne demande pas d'effort physique. Si vous faites que du planeur, vous n'allez pas être hyper physiquement en forme, on va dire. Donc il faut faire une activité à côté, un peu plus cardio, un peu plus endurante. Parce que là, sur le dernier championnat du monde que j'ai fait, on a eu 12 épreuves. 12 épreuves d'affilée quasiment.
Donc, qu'est-ce que c'est par exemple, le type d'épreuve que
par
vous
exemple,
avez
là on partirait de Saint-Auban, on aurait la ligne de départ sur Maligé, on ferait le premier point sur Briançon, deuxième point sur Luc-en-Diois, troisième point sur Vinon-sur-Verdon et retour. Donc c'est des triangles souvent de 200, 300, 500 km avec une ouverture de porte qui a lieu par exemple à 14h, vous la passez quand vous voulez et le chrono se déclenche. Et celui qui a gagné la journée, donc en général, il gagne 1000 points, c'est celui qui a tourné le plus vite possible sur ce circuit-là. Donc, c'est une moyenne, en fait. Donc là, par exemple, en République tchèque, on a tourné des circuits à 127-130 km/h de moyenne. Une journée qui est moins bonne, où la météo est moins bonne, là, la vitesse va se chuter, et peut-être que le gagnant, il gagnera qu'avec seulement 70 ou 80 km/h de moyenne. Donc, c'est vraiment une... C'est pas une course en régate parce qu'on part pas tous forcément en même temps, mais c'est le principe de la régate en fait, ou finalement du Tour de France si vous voulez. À la fin du championnat du monde, le champion ou la championne du monde, c'est celui qui a accumulé le plus de points. Mmh.
Donc vous faites d'autres sports aussi, mmh. Et puis alors je veux simplement savoir, quand vous faites pour le loisir, vous faites encore pour le loisir,
oui,
le planeur, oui. Est-ce qu'on se prépare de la même façon que quand on... Quand vous décidez de partir une journée, ça demande un temps de préparation important.
Ça demande un temps de préparation important. Et moi, j'avoue que c'est ce qu'on me reproche, entre guillemets, ou c'est ce qui fait rire mes collègues de planeur, c'est que ce soit pour le loisir ou pour la compétition, j'ai le même rituel. Mm-hmm. Depuis quasiment que j'ai commencé, j'ai mon temps où il y a le temps le matin. Moi, ce que j'aime, c'est j'arrive, je prépare mon planeur et j'aime que le planeur soit nickel et prêt avant le briefing, qui a lieu en général vers 9h30-10h. Quand je dis nickel et prêt, c'est-à-dire qu'il faut que le planeur soit donc équipé, le parachute mis, les batteries mises, et on met de l'eau dedans pour aller plus vite. Donc dans les ailes, on met jusqu'à 200 litres. 200 litres dans les ailes pour, pour optimiser la glisse, en fait, parce que c'est un sport de glisse. Puis après, donc, on prend les infos météo au briefing, les infos de circulation aérienne, des vêtements qu'il peut y avoir dans le coin. Et puis après, c'est parti. Une journée, ce qui différencie une journée de compétition d'une journée de loisir, hein, c'est que la journée de compétition, on ne choisit pas où on va. On a un circuit imposé, de toute façon, il faut le faire. Hein. Donc ça peut avoir des mauvais côtés quand on n'a pas forcément envie d'aller dans un coin où la météo n'est pas hyper propice. Il faut y aller quand même. Alors qu'en journée de loisir, moi, je regarde la météo, je regarde là où il fait le plus beau et puis j'y vais. Quoi. C'est sûr que c'est différent. Et ce qui est fabuleux ici, c'est qu'on part de paysages, on va dire, assez arides et secs pour aller virer dans les glaciers, dans les Alpes, il y en a qui vont jusqu'en Autriche. Donc c'est vrai que c'est une variété de paysages qui est formidable. Quoi.
Donc vous avez votre propre planeur, ça c'est indispensable ?
Non, moi j'ai mon propre planeur, mais c'est pas avec mon planeur que je fais les compétitions.
Ah oui.
Non, j'ai un planeur, parce que faut savoir qu'un planeur sur lequel j'ai volé en Tchéquie, ça vaut entre 80 et 100 000 euros. Donc, malheureusement, je n'ai pas un salaire qui me permet d'avoir ce type de planeur-là. On est tous amateurs dans ce sport, donc ça veut dire qu'on a un travail à côté. Et donc, c'est grâce à l'équipe de France, c'est grâce au Pôle France et à la Fédération française de vol à voile que je peux faire ces compétitions à ce niveau-là, grâce à ce matériel-là. Parce que moi, mon planeur, il vaut entre 20 et 30 000 euros. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et surtout, au niveau performance, ça n'a rien à voir. Quoi. Donc, les planeurs sur lesquels je vole avec l'équipe de France, ce sont des Formule 1, clairement. C'est des Formule 1.
Ça demande un entretien important aussi. Dès que vous avez volé, il faut revoir, l'examiner.
Il faut l'examiner. Disons que s'il y a des plages d'heures, toutes les 50 heures ou toutes les 100 heures, il faut faire un examen. Que l'on fait, il y a un examen de toute façon systématique avant de voler, comme sur tout appareil volant, et qu'on devrait faire normalement sur toutes nos voitures, mais qu'on ne fait pas forcément. Mais bon, oui, on inspecte les ailes, on inspecte les ailerons. C'est une mécanique assez simple, en fait. Il n'y a pas de moteur, donc c'est vraiment une mécanique très simple. Il y a une visite annuelle importante tous les ans, auquel moi, en général, je participe. Hein, sur le planeur sur lequel je vais faire les compétitions, en général, je participe à la visite annuelle parce que j'aime bien m'occuper de tout ce qui est état de surface, tout ce qui est optimisation, on va dire, du matériel, peaufinage, lustrage, ça, c'est mon truc. Mais c'est pas un entretien... comparé à un avion ou à d'autres matériels mécaniques comme des voitures, des kartings, non, c'est pas aussi complexe que ça.
Et quand on vole ici ou à Angers, et puis qu'on va ensuite au Danemark, d'où vous êtes allé, et en République tchèque, comment ça se passe quand on vole dans des lieux aussi différents ? Il y a des reconnaissances à faire.
Oui, disons que pour le Danemark, j'avais eu la chance, pour la République tchèque aussi, de partir. Donc, le Danemark, on était parti 2 mois avant en reconnaissance. On avait fait une semaine de vol sur le site de la compétition. pour la République tchèque, je suis partie l'année dernière. En mai 2016, on est parti 2 semaines. Donc c'est vrai que ça, c'est, je pense, primordial. Il y en a qui arrivent à arriver sur un lieu de compétition, puis à très bien voler et à s'adapter. Mais c'est vrai que pour moi, je pense que c'est indispensable. En plus, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est surtout de ne pas avoir de stéréotypes. C'est-à-dire que d'une région à l'autre, les conditions météo, enfin, il ne faut pas se dire, ah oui, quand il y a tel vent, ça marche comme ça. Non, il faut vraiment réapprendre. Il faut réapprendre parce que les ciels sont différents d'une région à l'autre, mais totalement différents, quoi. Un ciel du Danemark, c'est vrai que là, pour le coup, ça ressemble plus à Angers, des conditions un peu plus faibles, un peu plus maritimes, entre guillemets, alors qu'un ciel de la République tchèque, ça ressemble qu'à la République tchèque, quoi, ou à la Slovaquie, ou à la Pologne, mais on ne peut pas comparer avec ce qu'on connaît, en tout cas en France, quoi.
Aude Grangeret, donc on va revenir, puisqu'on a un petit peu dépassé l'heure prévue pour l'appel de Véronique Roquet, puisqu'on va venir donc à votre lien qui vous lie avec la Ligue, ou en tout cas ce futur lien de partenariat avec la Ligue de lutte contre la sclérose en plaques. Et pour ça, donc, je vais appeler Véronique Roquet tout de suite. Alors... est-ce que ça marche? Oui.
Oui, allô?
Oui, bonjour, Véronique Roquet?
Oui.
Voilà, et bien, bienvenue en direct sur notre antenne. Donc, où nous sommes avec Aude Grangeret, double championne du monde de vol à voile. Vous allez nous expliquer donc pourquoi vous êtes... vous avez contacté vous-même cette jeune championne.
Alors déjà, j'ai eu la chance de voir son reportage sur FR3 et j'ai trouvé réellement que c'était une belle personne et que je trouvais que ce qu'elle faisait était très intéressant. Donc je l'ai contactée, nous nous sommes rencontrés et je lui ai expliqué qui j'étais et ce que je faisais. Donc Aude a adhéré à ce projet. Donc voilà comment nous sommes rencontrés.
Alors vous-même, vous êtes investie dans cette ligue pour des raisons personnelles?
Oui, je suis donc correspondante de la Ligue française contre la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune, inflammatoire, touchant le système nerveux central, hein, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Si vous voulez, pour avoir une image, c'est comme un fil électrique. Vous avez le cuivre et autour, vous avez un plastique. Et bien là, c'est le tour, c'est la myéline et c'est ça qui se dégrade. Alors moi, je suis très impliquée parce que j'ai une fille qui a la sclérose en plaques, qui a été détectée il y a 10 ans. Elle avait 27 ans. Mmh. Voilà, donc... d'un côté, les patientes experts et moi, je suis correspondante.
Alors, on va revenir sur cette maladie qui apparaît généralement chez des personnes assez jeunes, c'est ça?
Oui. Si vous voulez, l'âge moyen de diagnostic, c'est 20-40 ans.
Mmh. Et comment on s'aperçoit, quels sont les symptômes pour...
Alors, les symptômes, il y en a plusieurs. C'est une maladie multifactorielle, je dirais. Donc, au départ, souvent, les personnes sont un petit peu dépressives, ont soit des névrites optiques, soit des troubles de l'équilibre, soit des douleurs sensitives, enserrement, parasthésie. Alors, au départ, toujours une grande fatigue. Au départ, on ne se pose pas trop la question. On dit souvent, c'est le travail, c'est j'ai fait ci, j'ai fait là. Puis petit à petit, ça continue. On est toujours dans ces phases-là. Donc, on vous envoie voir un neurologue. Et maintenant, avec les IRM, ils arrivent à diagnostiquer plus rapidement la maladie.
Et alors, quand le verdict tombe, j'imagine qu'on est assez démuni.
Pardon?
Quand le diagnostic est fait, est-ce que vous êtes suffisamment entourée? Est-ce que les médecins...
Non, justement, justement, au niveau médical, oui, parce que ils vont directement au traitement. C'est surtout tout ce qui est médical, tout ce qui est traitement, tout chose. Mais tous les alentours, les personnes sont vraiment dépourvues. Elles se retrouvent seules, elles se retrouvent incapables, elles savent pas où elles sont, elles se demandent ce qui se passe. Souvent, c'est une maladie dont on parle le moins. Donc souvent, elles regardent sur Internet et donc elles sont un petit peu perdues. Donc c'est pour ça que la Ligue œuvre surtout pour les patients et leurs aidants, pour créer des groupes de parole, des ateliers.
Mais c'est une maladie
pour les aider à créer du lien social. Et oui. Puis, avec les patients experts, on essaie aussi d'aider au niveau du travail. Parce que ce sont des personnes qui sont mal comprises. Dans le sens où physiquement, elles sont comme vous et moi pour la plupart. Hein. Les handicaps sont invisibles, tout d'abord. Donc, on les prend pour des personnes qui ne veulent jamais rien faire, qui sont souvent fatiguées. Vous les voyez, fin de semaine, elles étaient bien. Et puis, le lundi matin, elles sont en arrêt de travail parce qu'elles ne sont pas bien. Donc, c'est difficilement compréhensible.
Et il y a des conséquences donc au niveau du travail. Est-ce qu'on peut perdre son travail?
Voilà, professionnellement, ça pose des problèmes, oui. Surtout qu'on est dans un monde où il faut être performant à 300%. Alors, elles sont performantes, mais avec des phases où la fatigue prend le dessus, où leur symptôme peut prendre le dessus. Donc, elles ne sont pas capables de gérer ça avec un travail.
Et pour vous, c'est un engagement qui vous prend tout votre temps. Comment ça se passe? Les gens contactent la Ligue?
Alors, les gens contactent la Ligue. Enfin, déjà, moi, au niveau du Var, puisque je suis dans le Var, déjà, rien que là, j'essaie de contacter tout ce qui est la presse, les mairies, les institutions, pour faire savoir déjà que nous avons un groupe de parole tous les mois, qui permet donc aux gens, aux personnes malades et à leurs aidants, c'est-à-dire leur entourage proche, de venir, de s'exprimer et surtout de s'entendre. Et puis ensuite, je pense pouvoir mettre des ateliers en place, en nutrition, sophrologie, tout ce qui peut les aider en complément
bien-être,
de leur traitement, si vous voulez.
Oui, parce que la nutrition est quelque chose d'important aussi. Ça peut être une méthode complémentaire de soins.
Oui, oui, c'est ce qui en ressort, oui. Que la nutrition est quelque chose d'important. Et puis, ce qui en ressort aussi, c'est le sport. Adapté, bien sûr, mais le sport aussi.
Et quelles sont vos attentes et vos espoirs aujourd'hui?
Alors, avec Aude, on en a déjà parlé, c'est que nos attentes, c'est de faire connaître beaucoup mieux. C'est de la communication, finalement.
Oui.
C'est de faire connaître beaucoup mieux la maladie. Et le sport est un excellent vecteur. Parce que, comme elle expliquait, c'est de la détermination, c'est tous les jours, c'est faire un effort. Et pour ces personnes qui ont la sclérose en plaques, c'est tous les jours faire un effort. Moi, ma fille a une image, elle dit, moi, quand je suis bien, c'est quand vous avez 42 fièvres.
Ah oui. Et oui, ça donne un aperçu de...
Ça donne un aperçu de ce que ça peut être. Je veux dire, c'est un effort de tous les jours. Donc voilà, le fait de pouvoir nous exprimer à travers des personnes qui ont envie de soutenir notre engagement, c'est surtout la visibilité. Faire comprendre cette maladie, faire comprendre que ces personnes sont des personnes à part entière, qu'elles ont envie de travailler, qu'elles se donnent à fond aussi, mais qu'il faut qu'on adapte. Et puis à côté de ça, après, on a des personnes aussi qui, au fur et à mesure de la maladie, sont sur fauteuil roulant. C'est aussi adapter nos villes, nos bâtiments et tout, à ces personnes handicapées. Où en France, on pêche beaucoup.
Et oui, il y a encore beaucoup à faire. Hein. Soit disant,
oui,
il devait y avoir toutes les
structures adaptées. Et puis après, c'est sûr qu'en faisant connaître et en parlant de la maladie, de faire comprendre, vraiment comprendre, connaître et comprendre, ça va nous permettre de lever des fonds aussi pour l'aide aux malades, mmh. et puis en même temps pour la recherche. Parce que plus la recherche est importante, plus on va trouver des solutions. Parce que pour l'instant, c'est quand même une maladie qui ne se guérit pas.
Et qui peut être ralentie.
L'évolution. Oui, on va dire ça comme ça. Oui. Il y a des traitements depuis, mais il y a des traitements qui sont récents. Hein, ils ont une vingtaine d'années seulement. Mmh. Avant, on ne traitait qu'avec de la cortisone. Donc maintenant, on a des traitements par injection qui sont les interférons, la copaxone, le Tysabri. Et puis depuis 3-4 ans à peu près, on a des traitements par voie orale. Gilenia, Opagio, Tecfidera. Bon, c'est déjà, il y a une progression. Mais c'est une maladie qui est insidieuse parce qu'on ne sait pas comment elle évolue. Chaque personne a une évolution tellement différente que c'est complexe.
Mmh. Enfin, on peut imaginer que la sophrologie peut être très, très intéressante aussi.
Oui. Oui, aussi. Mmh. Il y a des ateliers, et on peut faire des ateliers mémoire, sophrologie, on peut faire des ateliers nutrition, on peut faire... Mais ça, c'est de la complémentarité. Il y a quand même un traitement à tenir parce que c'est quand même une maladie qu'il faut traiter correctement, je veux dire.
Et les traitements sont coûteux au quotidien ?
Pardon. Alors, il y a des traitements qui étaient au quotidien. Il y en a d'autres maintenant. Tout ce qui est par voie orale, souvent, c'est au quotidien. Quelquefois, c'est que deux fois par mois. Ça dépend des traitements. Mmh. Ça, c'est souvent le neurologue qui choisit en fonction de ce qu'on appelle les poussées. C'est quand la maladie avance, enfin quand il y a une inflammation, on va dire. Et puis, en fonction de la sclérose en plaques, puisqu'il y a trois grandes...
des types de...
familles.
Oui.
Mmh. Voilà. Il y a des formes rémitantes, secondaires progressives et progressives d'emblée. Donc, ça dépend de la sclérose que vous avez.
Donc, avec Aude Grangeret, donc un partenariat va se mettre en place. Et vous serez présente aussi, puisque l'événement aura lieu au Club de Vaux-la-Voile à Château-Arnoux-Saint-Auban ce samedi 9 septembre.
Oui, ce samedi, oui.
Donc, à 18h, lors des résultats de l'équipe de France féminine de Vaux-la-Voile.
Oui, c'est ça.
Oui, donc,
Aude a eu la gentillesse de bien vouloir coller sur son avion la Ligue française, son avion personnel, la Ligue française contre la sclérose en plaques.
Donc j'ai bien reçu les stickers, pas de souci. Et donc je les mettrai pour ce week-end et on pourra faire des photos comme prévu. Hein, parce que justement l'association d'images entre un planeur et puis cette maladie qui est quand même très mal connue et terrible à la fois. Hein. Je pense que c'est lié hein, mm-hmm. dans le sens. C'est peut-être aussi un pari d'avoir une visibilité. Ce dont on n'en a pas trop parlé aussi, c'est que ça touche majoritairement des jeunes femmes.
Des jeunes femmes,
ouais.
Plus, oui.
Et c'est vrai que je pense que dans le reportage, ce qu'a perçu Véronique aussi, c'est que le fait d'être une femme. Relativement jeune dans un milieu aéronautique relativement
masculin
et âgé, c'est un défi, en fait. C'est, mm-hmm. c'est un défi. Je ne dis pas que c'est dur hein, d'être une femme dans ce milieu-là, au mm-hmm. contraire. Hein. Mais c'est vrai que dans le haut niveau, il peut y avoir des petites tensions entre hommes et femmes par rapport à ça. En fait, dès que vous arrivez à leur niveau, ça peut poser problème. Et c'est vrai que de s'associer à une telle cause, pour moi, ça a du sens. D'autant plus que personnellement, je connais quelqu'un qui est atteint en fait de cette maladie-là. Enfin, c'est un hasard, hein, c'est... Mm-hmm. Mais c'est vrai que je suis pas du tout indifférente et mettre un sticker sur un planeur, c'est pas compliqué. Enfin, après, si ça peut justement générer des fonds pour cette cause-là et ou au moins avoir un effet bénéfique sur la communication et sur la compréhension de cette maladie-là, c'est pas grand-chose pour un effet qui est quand même décuplé. Quoi.
Bien. Vous entendez, Véronique ?
Oui.
Oui, oui. Vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, alors pour aider aussi Aude, parce que de notre côté, elle va nous aider en communication finalement avec pour la visibilité de la Ligue, de notre engagement. Mm-hmm. Pour son projet, puisqu'elle a plusieurs projets en 2018, on espère la fédération va pouvoir lui mettre en possession son avion. Et nous, de notre côté, avec la... comment on appelle ?
L'université.
L'école
L'université.
J'ai une professeure qui va se mettre en relation avec... qui a des élèves où ils vont faire... ils ont un projet à monter. Mm-hmm. Je lui ai donné tous les éléments. Ils en parlent cette semaine pour essayer de monter un projet, pour l'aider, pour essayer d'aider, de trouver des sponsors, l'aider dans sa communication aussi, d'un autre côté. Voilà. Donc, ça soit un vrai objectif de partenariat.
Oui, parce que c'est vrai qu'en 2018, du coup, j'ai plusieurs objectifs. Un qui va, malheureusement, je pense, être assez difficile à atteindre pour faute de matériel. Donc, c'est le championnat du monde des Grands Prix au Chili, hein, qui a lieu au mois de janvier. Et le souci de ce championnat, c'est qu'il faudrait que le planeur parte en conteneur...
avec l'université de Toulon, voilà.
Oui, c'est l'université de Toulon. Il faudrait qu'il parte en conteneur fin septembre. Donc, on est déjà le 5.
Oui.
J'ai pas de planeur, c'est un peu compliqué.
Ah oui, donc ça risque d'être...
Oui. Donc, bon, je baisse pas les bras parce que c'est pour moi une occasion géniale hein, de championnat, hein, puisque c'est la Fédération mondiale, en fait, hein, de l'aéronautique qui sélectionne ses pilotes pour ce type de compétition. Actuellement, donc, je suis la seule femme sélectionnée parmi une vingtaine de pilotes et parmi les 20 pilotes, les 20 meilleurs au monde, quoi. Donc c'est vrai que étant compétitrice dans l'âme, abandonner, ça m'ennuie un peu.
Donc l'appel, vous avez besoin d'un avion.
J'ai besoin d'un planeur. Ça c'est plutôt de mon côté que je vais chercher. Mais c'est surtout que j'ai besoin plutôt de partenaires, hein, de sponsors privés pour aller chercher ce championnat-là. Après, je vais avoir d'autres championnats en 2018 qui nécessiteront aussi un budget relativement conséquent. Il faut quand même souligner que je suis soutenue hein, par la Fédération française de vol à voile, le ministère des Sports et par le département des Alpes de Haute-Provence. Mais c'est vrai que ce type de championnat, ça représente un budget de l'ordre de 10 à 15, 20 000 euros hein, rapidement. Mm-hmm. Donc un championnat hors Europe, oui, c'est tout de suite des frais qui sont énormes. Un championnat en Europe, c'est aux alentours de 2 à 3 000 euros. Donc c'est plus facile de financer ce type de championnat-là.
Et vous aviez fait, j'ai vu sur Internet...
du crowdfunding.
Voilà.
Oui, j'avais fait du crowdfunding pour la saison 2017. Mm-hmm. Grâce au soutien de mes amis et puis de contacts que j'avais par ailleurs, c'est vrai que j'ai pu réunir la somme de 2000 euros. Donc c'est vrai que c'est quand même une super aide parce que la saison, ça représente... en frais personnels, ça représente environ 4000 euros, quoi. Donc si vous avez déjà 2000 euros qui arrivent, ça soulage énormément. Donc, parce que comme tout, il n'y a pas de secret. Hein. Pour arriver au meilleur niveau, il faut s'entraîner un max. Et même si vous êtes soutenu par votre fédération, par le ministère, par un tas de personnes, ça ne couvre pas tout. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment, il faut s'organiser, quoi.
Donc avis aux sponsors à venir.
J'ai une page Facebook. Ouais. C'est comme ça que Véronique d'ailleurs m'a contactée. Et c'est vrai que je pense que le partenariat avec Véronique va certainement être intéressant parce que travailler avec des étudiants spécialistes en gestion de projet, c'est vraiment ce qu'il me faut parce que moi j'ai mon activité de sportive de haut niveau, j'ai mon activité professionnelle. Et en parallèle, il faut que je fasse un peu de gestion de projet pour organiser logistiquement mes championnats. Donc, je peux vous dire que...
Ça fait du oui. temps de travail important. Et alors, comment vous faites pour gérer en plus votre travail ?
Eh bien, je fais au mieux. Je fais au mieux. C'est-à-dire que là, jusque cette année, j'ai pu bénéficier d'une convention d'insertion professionnelle qui faisait que j'avais une quinzaine de jours supplémentaires de congé pour pouvoir m'entraîner et faire mes championnats. Je ne pense pas que ça va être renouvelé du coup pour l'année prochaine. Je m'organise, j'essaye surtout... mon arme principale, c'est d'être en forme, en fait. c'est de ne pas perdre du temps à être crevée, être fatiguée. C'est vrai que je touche du bois, je suis jamais fatiguée. Quoi. Mm-hmm. J'essaye d'être à fond tout le temps et d'optimiser le moindre temps, quoi. Que ce soit pour ma vie perso, pro ou sportive. J'essaye de vraiment d'optimiser chaque minute, chaque seconde pour avancer. Quoi.
Et on a le sentiment quand même que quand on obtient comme vous deux médailles d'or, c'est pas rien et que les sponsors pourraient être facilement derrière vous.
C'est pas évident parce que le premier problème qu'on a en planeur, hein, c'est qu'on n'est pas un sport olympique. Et c'est vrai que quand on n'est pas sport olympique, toutes les grandes entreprises, hein, qui sponsorisent facilement le sport, hein, comme EDF, la SNCF, sponsorisent que les sports olympiques déjà. Donc ensuite, il faut s'adresser à d'autres entreprises plus petites qui ont des problèmes économiques, qui ont besoin de communiquer sur des vecteurs qu'elles connaissent peut-être plus facilement, enfin le foot ou le basket par exemple. Mm-hmm. C'est vrai que le planeur, c'est notre faute, hein, on communique pas assez, on communique pas bien en plus je pense, enfin, on communique pas suffisamment alors qu'on est un sport fabuleux. Enfin, moi j'hallucine quand je discute avec des dignois, avec mes collègues, qui me disent qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne sont même jamais allés se promener sur le terrain de Château-Arnoux-Saint-Auban. Il faut savoir que dans le 04, on a Château, on a Puy-Moisson, on a Seine-les-Alpes, on a la Motte-du-Caire, on a Sisteron. Dans le 05, on en a plein aussi. On a Saint-Crépin, on a Aspres-sur-Uèche. Enfin, on a plein d'aérodromes où on fait du planeur. On est une région qui attire énormément de vélivoles du monde entier. Beaucoup d'Allemands, des Français, enfin même des Américains, des Israéliens. Et notre population locale ne connaît pas ce sport qui est fabuleux. C'est là qu'on se dit, qu'il y a une marge de progression assez énorme. Quoi.
Quand vous voulez, j'imagine qu'on pense à planer, que c'est complètement planant, mais il faut être hyper attentif, ouais. Concentré.
Bah, c'est pour ça qu'on parlait de la forme physique tout à l'heure, c'est que c'est une décision à peu près toutes les 30 secondes.
Ah.
Donc, il faut être là. Et au moindre coup de fatigue, ça se voit en fait. On a pris une mauvaise décision, on n'a pas pris un bon cheminement. Tout en profitant à fond, hein, parce que c'est de la glisse, hein, c'est un planeur, on transite entre 150 et 250 km/h. Enfin, ça va vite, hein, c'est des machines qui sont fabuleuses. Mais il faut être là, effectivement, parce que ça va vite, parce que la météo évolue, parce que le terrain sur lequel on joue évolue aussi. Donc,
est-ce que ça vous est arrivé de vous faire peur ?
Alors, dire jamais, ce serait mentir. Oui, ça m'est arrivé, je ne sais pas si c'est avec la maturité ou quoi, mais il y a 5 ans en arrière, je voulais beaucoup plus engager en montagne, par exemple, que maintenant. C'est vrai qu'avant, peut-être que je ne mesurais pas tout à fait les dangers. Après, oui, ça m'est arrivé de me faire peur. Je touche du bois jamais dans des conditions... Enfin, j'ai jamais eu de problème grave, hein, en planeur, mais c'est vrai que c'est un sport qui incite à l'humilité. À la prudence, parce qu'on est tout petit. On est tout petit, on est dans un univers qui n'est pas le nôtre. On n'est pas des oiseaux. En plus, en montagne, on cumule et le fait d'être en l'air et le fait d'être en montagne. C'est comme un alpiniste. Je veux dire, je veux pas dire qu'on prend les mêmes risques, parce que c'est pas pareil, mais on est dans un milieu qui est à la fois fabuleux, mais un petit peu dangereux aussi. Donc il faut mesurer ce qu'on est capable de faire, savoir où on va, analyser la météo, et pas se mettre des challenges irréalisables qu'engagerait trop la vie, quoi. On n'est pas là pour se faire du mal, hein.
Quelle est l'altitude la plus haute où vous pouvez planer ?
Alors, dans les Alpes, c'est 6000 mètres à peu près.
Ah oui ?
Ouais. Et il y a une fenêtre à Saint-Auban où on peut monter... attention, hein. J'espère ne pas dire de bêtises, mais j'avais utilisé cette fenêtre-là il y a un petit moment maintenant. Je crois jusqu'à 8000 ou 9000 mètres.
Et alors là, vous avez un masque à oxygène ?
Ouais. On a de l'oxygène systématiquement. Même en thermique, hein, moi je l'utilise, hein, parce que l'oxygène quand même commence à manquer dès 2500 mètres. Hein. Moi je l'utilise à partir de 3500-4000 mètres, parce que justement, quand on est en manque d'oxygène, on est moins vigilant, on peut s'endormir, enfin, on peut prendre des mauvaises décisions. Donc oui, on a de l'oxygène dans les planeurs.
Est-ce que dans votre entourage, vous arrivez à mener des adeptes, des femmes, des jeunes femmes ?
Dans mon entourage, oui, enfin, par mon travail, là, j'ai réussi à emmener des femmes en planeur. Après, à les faire adhérer et à les faire prendre une leçon de planeur, on n'en est pas encore là. Je pense qu'il y a encore Après, est-ce que c'est typique des femmes? Je ne pense pas, mais il y a l'aspect est-ce que je vais oser? Est-ce que je suis capable de quoi? Alors que, honnêtement, ce n'est pas compliqué quoi, de faire du planeur. C'est à la portée de tout le monde. Hein. Il suffit d'observer, d'écouter, d'apprendre. Et c'est...
Donc, il y a encore assez peu de femmes?
Il y a trop peu de femmes.
Trop peu
il y a
femmes.
Trop peu de femmes. Disons qu'au début, on a des élèves femmes. Il y en a. Et puis, après, c'est vrai que c'est un sport qui prend du temps. Donc, je ne vais pas faire ma féministe de base, hein, mais une fois que la femme, elle va avoir sa vie de famille, même sa vie professionnelle, c'est difficile de tout mener de front. Donc, souvent, en compétition, là, on perd. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font de la compétition. Mais là, on a pas mal de jeunes hein, qui sont notamment au Pôle Espoir à Saint-Auban, des jeunes filles hyper prometteuses. Dont deux qui étaient avec nous au championnat du monde féminin, qui ont fait des super places et qui volent extrêmement bien. Donc il y a de l'espoir, mais après c'est vrai que ça c'est un travail des clubs, c'est un travail de la fédération qui bosse d'arrache-pied pour essayer de les fidéliser. Hein.
Est-ce que vous êtes fixé un âge limite pour participer? Non, il n'y a pas d'âge.
Moi non, après c'est pas moi qui choisis. Hein. La sélection c'est l'équipe de France qui choisit. Après faut rester compétitif, faut avoir la niaque. Hein. Et puis il faut être. Le vol à voile, c'est fabuleux, c'est une passion. Et la compétition, c'est encore autre chose. C'est un investissement pour moi qui est plus important. Je veux dire, préparer une compétition, moi je mets tout dedans, hein. Tout. Donc le moment avant le jour J, j'ai tout donné déjà. Enfin, je suis à fond. Donc après, il faut se poser la question, est-ce que je vais être capable de donner tout ça encore X années? Ça, le temps le dira. Pour l'instant, oui. J'ai une envie énorme, surtout quand on gagne. Hein, je veux dire, ça donne encore plus envie. Après, on verra de quoi l'avenir sera fait.
Ça va être l'heure de nous quitter déjà, Aude Grangeret. Merci encore d'être venue nous voir jusqu'à Digne dans notre studio. Et puis merci à vous, Véronique Roquet. Allô, allô?
Oui.
Oui. Merci à vous de votre témoignage. Et puis donner rendez-vous aux personnes qui ont envie d'en savoir plus sur la sclérose en plaques, d'adhérer à votre ligue.
Voilà, elles peuvent se rapprocher de nous. Il y a des coordonnées qui sont sur... je crois que vous les avez envoyées.
Oui.
Donc, ils peuvent se rapprocher de nous, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir pris du temps et de nous avoir conviés avec Aude. Je remercie Aude aussi de ce qu'elle va nous apporter. Et puis, on va essayer, nous aussi, de notre côté, de lui apporter quelque chose.
Qu'on
ait un beau partenariat et un beau parcours ensemble, puisque c'est une belle sportive. Et dans la sclérose en plaques, eh bien, c'est aussi une remise en question tous les jours de la vie des personnes malades, des personnes qui sont obligées d'aller chercher au fond d'elles-mêmes leurs ressources. Finalement, ça se compare un petit peu à ce dont elle a parlé.
Merci à vous, et puis je vous dis à samedi du coup.
Alors à samedi, donc à 18h au club de vol à voile.
De Château-Arnaud-Saint-Auban, il avait 15 ans.
Oui.
Saint-Auban, vous allez être en présence du maire, c'est ça aussi?
Je pense pas, je sais pas exactement. J'avoue que non, ce sera vraiment là l'objectif de samedi, c'était de réunir vraiment tous mes soutiens proches. Amis qui m'ont soutenue déjà durant toutes les saisons avant 2017 et puis 2017. Inviter Véronique, pour moi, c'était évident. Hein, parce que c'est quelqu'un finalement qui me soutient, puisqu'on s'apporte mutuellement et c'est important. Donc je pense qu'il y aura une convocation un peu plus officielle fin du mois, il me semble, à Château-Arnaud-Saint-Auban pour les jeunes pilotes.
Merci Aude, merci Véronique, et puis bon vent
merci à vous.
Pour la suite. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir.